Écho d'économie.
Reçu depuis hier par les députés pour examen approfondi, le budget 2016 reste à la une de notre édition de ce soir et vous aurez également l'opinion d'un analyste économique sur ce budget. La RDC gagne 3 places dans le rapport Doing Business 2016. Elle quitte de la 187e pour la 184e nation où règne un bon climat des affaires, cela sur 189 pays répertoriés. Et à Kisangani, nous parlerons de la gouvernance minière et le développement agricole. Ce thème est au menu d'échanges et de partage d'expériences entre les ONG de développement de cette province. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a accepté ce mercredi de recevoir le projet de budget 2016 pour examen approfondi. Le texte a été ainsi transmis à la Commission économique et financière. Mais avant cela, il a été question de la réplique du Premier ministre aux différentes préoccupations des députés, concernant notamment le paradoxe soulevé par des députés entre la faible exécution du budget et les excédents budgétaires. Matata Ponyo a répondu qu'il n'en était pas question. Le Premier ministre a aussi rejeté l'affirmation faisant état du paiement d'une prime après participation à la réunion de la Troïka. Les propos de Matata Ponyo ont été recueillis par Mimi Ngumba Mulungu.
Décentralisation est une option constitutionnelle irréversible. Sur le plan politique, elle est même une exigence de gestion optimale du grand espace territorial et du complexe sociologique de la République démocratique du Congo. À ce titre, il convient de noter que la décentralisation est un processus. En tant que tel, sa mise en œuvre peut se buter à des difficultés conjoncturelles auxquelles il faut faire face. Le gouvernement se doit donc de prendre des mesures de toutes ces difficultés en vue d'y répondre de manière appropriée et efficiente. Le démembrement effectif des provinces était une étape importante de ce processus. Et ce processus est en cours et va se poursuivre. Quoique tout n'ait pu être réalisé dans les délais fixés par la loi de programmation, il y a tout de même lieu de reconnaître qu'une bonne partie du chemin a été parcourue, car les nouvelles provinces existent bel et bien aujourd'hui. Bientôt interviendra la désignation des responsables de ces nouvelles provinces.
S'agissant justement de ce budget 2016, un analyste économique estime qu'il ne faut pas attendre qu'il résolve tous les problèmes de la RDC. D'après le professeur Grégoire Bakandeja, il s'agit d'un budget de fonctionnement des institutions. Cependant, dans la nouvelle pensée économique, l'État doit créer des conditions qui favorisent le développement des activités économiques. Le professeur Grégoire Bakandeja est joint par Daniel Tambinzoni.
D'abord, il faut retenir que tout budget est un programme d'activité. Et c'est tout à fait normal que les organismes publics présentent leurs activités sous forme d'état prévisionnel des dépenses et des recettes. Et c'est un exercice tout à fait normal qu'un gouvernement doit faire devant les chambres législatives qui doivent autoriser la perception de ces recettes, ces dépenses.
Et comment répondez-vous à ceux qui pensent que ce budget ne pourra pas résoudre le problème des Congolais, il est insignifiant?
Je pense que les gens doivent comprendre ce genre de choses. Il n'est plus possible aujourd'hui dans le monde pour que tous les problèmes de l'État soient résolus à travers le budget. Parce qu'on est sorti de la logique de l'État-providence qui doit intervenir dans tous les domaines. Et la logique néolibérale qui est aujourd'hui, c'est de voir l'État assurer le cadre dans lequel l'activité économique doit être réalisée. Et c'est sur base de cette activité économique que l'État va tirer des ressources pour pouvoir répondre à certaines de ses missions. Parce que l'on confond souvent, lorsqu'on élabore, on présente les états budgétaires, etc., on se dit, bon, l'État va tout faire à travers le budget. Ce n'est pas possible. Parce qu'on tient compte d'un certain nombre de paramètres.
Qui sont?
D'abord, on doit tenir compte du contexte économique international. À partir de ce contexte économique international, on va voir quelles sont les relations que l'État, en matière financière, a avec ses voisins, avec le monde extérieur. Quel est le niveau des investissements qui sont réalisés? On regarde le niveau des recettes et ces recettes augmentent ou diminuent en fonction de la production intérieure brute. Donc il faut que l'activité économique soit réalisée dans le pays pour qu'on puisse dégager des ressources. Mais ce n'est pas pour résoudre tous les problèmes. Et souvent quand on présente le budget de l'État, on pense que c'est le budget pour le développement. Non, ici nous avons un budget rien que pour le fonctionnement des institutions.
Les conférences débat se sont poursuivies encore aujourd'hui au Jardin botanique de Kinshasa, qui abrite depuis hier les activités de la 5e édition de la Journée internationale de l'épargne pour les associations professionnelles des institutions de microfinance. L'éducation financière devrait désormais faire partie intégrante de l'éducation nationale, aussi bien aux humanités qu'à l'université. Le président de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit le dit à Daniel Tambinzoni.
Nous avons promouvoir une bonne gestion des épargnes et des crédits par les institutions de microfinance et les coopératives de l'épargne et des crédits. Pour cette raison, la NIF et la FOSEC voudraient attirer l'attention des autorités du pays sur un mauvais vent des sécurités qui souffle sur le secteur financier dans la République démocratique du Congo depuis des temps. Et au mois d'août 2015, une copée à Kirumba. Voyez, toute son adresse de coffre emportée par des banquiers armés qui ont réussi à briser les portes et à accéder au coffre. En septembre, une banque voyait la cargaison de billets en dollars et en francs congolais en route pour fuir, attaquer et emporter. À cette occasion, plusieurs personnes qui convoyaient de l'argent ont tout simplement été tuées. Alors, on s'est mis à ouvrir à même une autre côté que voyait son adresse de coffre. Nous demandons aux autorités de ménager aucun effort pour trouver et punir ces bandits afin de donner une leçon et un avertissement pour éviter de semer la confusion dans la société de la population des épargnants. Nous demandons aux autorités et à toutes les parties prenantes du secteur financier d'étudier comment accompagner, soutenir les institutions financières afin qu'elles recouvrent la stabilité et ainsi continuer à se faire.
La Banque mondiale a publié depuis ce 27 octobre 2015 le rapport Doing Business 2016. La RDC se classe à la 184e place sur 189 nations répertoriées. Le pays avance ainsi de 3 places par rapport à l'exercice 2015 où il occupait la 187e position. Mais la RDC reste tout de même en bas du tableau de ce classement qui mesure la facilité de faire des affaires dans les pays classés. Autre particularité pour cette édition, le rapport intègre de nouveaux indicateurs portant sur la qualité pour 4 indices. Dites-nous en plus, Nadine Foulansimba.
Le rapport note une bonne progression de la RDC dans deux domaines, la création d'entreprises qui est devenue plus rapide et l'octroi des permis de construire. En revanche, le pays a encore des efforts à fournir en matière de raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs minoritaires et le paiement des impôts et taxes. Des indicateurs qui ont tous baissé dans la période considérée. L'Afrique subsaharienne à elle seule compte 30% des réformes réglementaires facilitant le climat des affaires en 2014-2015, suivi des prêts par l'Europe et l'Asie centrale. Et les trios des pays de l'Afrique subsaharienne où il est plus facile de faire les affaires est constitué de l'île Maurice, suivi du Rwanda et du Botswana. Sachez que les membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires sont particulièrement actifs. 14 des 17 économies ont mis en place des réformes réglementaires facilitant l'environnement des affaires durant l'année passée, soit 29 réformes au total. Le rapport de cette année intègre de nouveaux indicateurs portant sur la qualité pour 4 indices, transfert des propriétés, octroi des permis de construire, raccordement à l'électricité et exécution de contrats. Les 5 meilleurs pays classés sont le Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Corée du Sud et le Hong Kong. Rappelons que le rapport Doing Business 2015 avait classé la RDC parmi les top 10 meilleurs pays réformateurs qui avaient mis en œuvre un total de 40 réformes facilitant la pratique des affaires.
Merci Nadine. Je passe à présent le micro à Daniel Tambinzoni pour nous en dire un peu plus sur ce rapport Doing Business.
Doing Business est une expression anglaise qui signifie tout simplement faire des affaires. Ce terme a été emprunté par la Banque mondiale pour son rapport annuel. Il s'agit du rapport pour mesurer les facilités d'affaires qu'offre un pays aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale est souvent publié au mois d'octobre de chaque année et c'est le cas cette année 2015. Le souci est de faire voir aux investisseurs les pays favorables pour l'année suivante. Rappelons que la première publication de Doing Business de la Banque mondiale remonte à 2004. Dans ce rapport, 189 économies du monde sont cotées et l'évaluation se fait à travers des indicateurs qui portent essentiellement sur le suivi des réformes, sur les réglementations orientations sur la mise en œuvre de ces réformes par chaque pays. Parmi les indicateurs, nous pouvons citer par exemple la création d'entreprises, l'obtention des prêts, le paiement des taxes et impôts, la connexion à l'électricité et ainsi de suite. Il convient donc de retenir que le Doing Business est un outil qui permet à des investisseurs potentiels, nationaux ou étrangers, d'avoir une indication nette sur la pratique des affaires dans le pays où ils veulent aller s'installer. Le classement Doing Business ne prend pas encore en compte les aspects liés à l'environnement macroéconomique ou encore à la corruption. Le Doing Business 2016 vient d'être publié par le service de la Banque mondiale et dans ce classement, la RDC a gagné 3 places par rapport à son emplacement de 2015. Elle est placée 184e contre 187e pour l'année 2015.
Écho d'économie. La gouvernance minière et le développement agricole est au centre d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences qui s'est ouverte ce jeudi à Kisangani à l'intention des membres des organisations de la société civile. Cette rencontre de 2 jours est organisée par le Conseil régional des ONG de développement. Selon le secrétaire exécutif du CRONG, cette rencontre s'efforcera de faire un inventaire des réalisations sur la gouvernance minière et le développement agricole dans la province orientale des Membrés. Il s'agira notamment de décrire les stratégies et les actions les plus importantes menées en faveur de la gouvernance minière et du développement agricole au niveau de la province. Ingénieur Ryder Mitoko est au micro d'André Kitenge.
Nous organisons cette rencontre après une étude qu'on est en train de mener sur les conséquences d'une exploitation minière non contrôlée sur l'agriculture au niveau de la province. Et les résultats d'études sont déjà là et nous avons voulu inviter les collègues qui travaillent dans la thématique, donc sur la gouvernance minière et le développement agricole, afin qu'ensemble nous puissions échanger et partager nos expériences pour mettre en place un document de plaidoyer. Les résultats, c'est que, d'une manière globale, le gouvernement central a plus privilégié l'exploitation des mines que le développement de l'agriculture. Pourtant, la majeure partie de la population congolaise vit presque exclusivement de l'agriculture. Donc ça doit être un secteur clé que le gouvernement doit protéger, puisque en protégeant les secteurs agricoles ou en favorisant les secteurs agricoles, le gouvernement serait en train de protéger sa propre population. Donc, comme il y a ces conséquences, nous avons pensé que, par exemple, notre province, elle est à vocation à la fois minière et agricole. Donc, il y a toujours moyen que les décideurs, donc le gouvernement, puissent chercher des voies et moyens afin de favoriser l'émergence de tous les deux secteurs.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Jean-Claude Moufiala et suivie par vous. Merci.